au-dessus de toute autre considération.
La prise du pouvoir par les armes aura aussi laissé son empreinte au Burkina Faso, au Soudan, mais également au Tchad, qui semble avoir bénéficié d'un chèque en blanc. En clôturant leurs assises à Malabo, les dirigeants africains ont réitéré leur engagement à redoubler d'efforts pour remédier au déficit de gouvernance sur le continent.
Merci beaucoup John Lyndon. Et à présent, nos invités pour le débat via Skype à Dakar. Nous avons Ibrahim Khan, analyste politique. Vous êtes également le directeur du plaidoyer à l'Open Society for West Africa auprès de l'Union africaine. Nous avons à Rouen, en France, je crois au téléphone, Brice Arsène Mankou, sociologue, chercheur, co-directeur du Centre africain de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique au Canada. Et ici aux États-Unis, précisément à Orlando, en Floride, Kéré Tanda, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, lauréat 2021 du Grand Prix congolais du livre. Je dois aussi préciser que vous avez été assistant spécial de feu le président Laurent Désiré Kabila. Alors, Ibrahim Khan, je démarre avec vous. L'Union africaine renvoie-t-elle dos à dos les militaires ayant pris le pouvoir par les armes et les présidents qui se maintiennent au pouvoir à coup de changement constitutionnel?
Je ne saurais vraiment répondre par l'affirmative à cette question parce que tout simplement, les résultats de cette réunion de Malabo sont pour moi assez décevants. Décevants dans la mesure où tout le monde connaît les maux que le continent vit à l'heure actuelle. Tout le monde sait qu'est-ce qui est à l'origine de ces coups, qu'est-ce qui est à l'origine des problèmes de mal-gouvernance, mais rien dans le communiqué de l'Union africaine ne permet de penser que des mesures assez solides, des mesures importantes vont être prises dans les semaines, dans les mois à venir pour régler le problème.
Mais quand quand les chefs d'État, quand même, dans leur déclaration finale, disent soutenir la déclaration d'Accra du 17 mars, qui établit un peu une corrélation entre la malgouvernance et les coups d'État, est-ce que ce n'est pas une manière d'évoquer cela, ou bien vous vouliez qu'ils évoquent spécifiquement la question du troisième mandat?
Ils disent adhérer à la déclaration d'Accra. La déclaration d'Accra était claire sur les actions à prendre. Mais quand on lit le texte de l'Union africaine, aucune de ces mesures clés de la déclaration d'Accra ne sont reprises en compte. Par exemple, la déclaration d'Accra disait clairement qu'il fallait repenser le concept de changement anticonstitutionnel de gouvernement. La définition de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie est désuète. Il fallait repenser cela. Rien dans la décision ne pense qu'on ira dans cette direction-là. Prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement, c'est mieux que de gérer ces changements anticonstitutionnels de gouvernement.
D'accord.
Rien dans le document ne dit clairement ce que l'Union entend faire pour arriver à mieux prévenir les changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Alors Brice Mankou, l'Union africaine et les autres institutions régionales sont souvent critiquées pour leurs différences d'approche concernant les changements constitutionnels et les coups d'État. Pensez-vous que Malabo était une occasion manquée en fait pour dénoncer ce que certains appellent des coups d'État constitutionnels?
Bien, Malabo a été quand même une étape assez décisive dans la mesure où ça posait les bases. Les bases, effectivement, de ce qu'on va appeler la gestion de la démocratie en Afrique. Le diagnostic étant posé à Malabo, le fait de pointer un certain nombre de difficultés qu'on a, notamment avec les changements constitutionnels qui sont intervenus en Afrique, le fait de pointer la question de la crise humanitaire, le fait de pointer un certain nombre de problèmes de gouvernance, on peut croire que c'est là une ouverture qui pourrait, en ce moment-là, permettre d'aller beaucoup plus loin. C'est vrai que le fait d'avoir un sommet extraordinaire comme ça à Malabo, ça n'est jamais arrivé depuis des décennies. Le fait de faire un diagnostic, j'ose croire que ça va nous amener progressivement à aller encore avec une certaine force et vigueur vers les problèmes qui sont les problèmes de gouvernance qui se posent en Afrique. D'accord. Mais je regrette par exemple qu'on ait mis de côté la question de la jeunesse, qu'on ait mis à côté la question de l'emploi des jeunes, qui, somme toute, sont des questions essentielles sur lesquelles le gouvernement aurait pu aussi intégrer dans leur déclaration.
On pourrait d'ailleurs revenir sur ces deux questions en seconde partie. La limitation des mandats présidentiels et le verrouillage des constitutions sont-ils des chantiers vraiment à la portée de l'Union africaine pour vous?
Bon, je dois d'abord commencer par dire que quand on parle de pouvoir en Afrique et de réorganisation du pouvoir en Afrique, au niveau des institutions comme l'Union africaine ou les institutions régionales, les communautés régionales, qu'on peut s'attendre de la question africaine. Donc, nous sommes déjà mal en voulant résoudre les problèmes africains à partir des institutions, soit régionales, soit sous-régionales, soit tout à fait au niveau de tous les continents. Donc, à mon sens, ce n'est pas au niveau de l'Union africaine ou des communautés économiques régionales qu'on va résoudre les problèmes africains. Les problèmes africains ne peuvent se résoudre qu'au niveau national. Et ceci est très logique, puisque un ensemble ne peut pas être fort quand les éléments qui les constituent sont très faibles. Et c'est ça le cas de l'Afrique. Tant que les États africains ne se seront pas consolidés, on ne pourra pas s'attendre à avoir des communautés, soit africaines, soit régionales, qui soient fortes et qui puissent dicter les comportements des États. Ce n'est pas l'Union africaine qui va donner les orientations à la RDC ou bien au Mali. On le sait. Donc, une institution sans aucun pouvoir, sans aucune force d'imposer sa décision sur les États, ne sert en tout cas, à mon sens, à rien. C'est la prise de conscience au niveau national qui pourrait amener à des transformations au niveau des États africains. Et tant que le peuple africain n'a pas encore priorisé on aura des dirigeants qui vont répéter ce que nous sommes en train de dénoncer ici. Donc, pour peut-être résumer ma question, je suis en train tout simplement de dire que les changements en Afrique seront fondés sur les changements des mentalités au niveau national, puisque les gouvernants ne tombent pas du ciel. Les gouvernants sont l'émanation des peuples. Et d'accord, tant que l'état d'esprit des populations n'aura pas changé pour prioriser les gens, on aura toujours à répéter les mêmes lamentations, les mêmes frustrations.
Justement, Ibrahim Kane, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une contradiction entre les dynamiques internes et externes? Quel rapport entre l'Union africaine et les régimes militaires, par exemple? Est-ce qu'on doit laisser les institutions régionales prendre le lead dans les discussions avec ces régimes qui auraient fait entorse à la bonne marche de la démocratie, entre guillemets?
L'expérience de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO montre que les communautés économiques régionales peuvent jouer un grand rôle dans la gestion de ces situations. En réalité, avec le Conseil de paix et le protocole sur le Conseil de paix et de sécurité, c'est lorsque la communauté économique régionale est incapable ou n'a pas les moyens de gérer ces situations qu'on les transfère au niveau continental. Tout à l'heure, vous avez posé la question des changements institutionnels de gouvernement. La CEDEAO est en train de gérer des situations assez difficiles et est presque en train d'arriver à des solutions au Mali, au Burkina, même en Guinée, que vous aviez mentionné tout à l'heure, le sommet du 4 juin prochain le couvra. Et plus fondamentalement, la CEDEAO est en train de réviser son cadre régional de la gouvernance pour inclure dans les normes de convergence constitutionnelle de la région le fait que dans aucun État de la région, on ne pourra faire plus de deux mandats. Donc, c'est vous dire que quand les régions le veulent, quand les régions vraiment s'agrippent à ces problématiques-là, ces problématiques peuvent connaître des avancées assez considérables.
Alors, Brice Mankou, l'Union africaine doit-elle aller dans le sens des sanctions, sortir le bâton, ou plutôt jouer un rôle de facilitateur entre ces régimes et les institutions régionales, ou même ces régimes et les différentes composantes au niveau national?
En fait, l'une des faiblesses de l'Union africaine, c'est qu'elle n'a pas une force de coercitive auprès des États. On a comme l'impression que c'est un club d'amis, et l'Union africaine, même quand elle souhaite s'engager dans dénoncer des coups d'État, fait à minima. Et donc, ce qu'il faudrait faire, comme le souligne notre interlocuteur, c'est qu'au niveau des sous-régions, créer des mécanismes, qui soient des mécanismes directs. Je prends l'exemple de ce qui se passe au Cameroun avec Boko Haram. Quelles sont les forces autour du Cameroun, quels sont les pays autour du Cameroun qui sont capables de s'organiser pour aller à la rescousse, justement, d'un tel État, l'État du Cameroun, qui, visiblement, est seul à lutter dans la sous-région Afrique centrale contre ce phénomène. Je prendrai aussi l'exemple de la RCA, etc. Et donc, renforcer les mécanismes sous-régionaux de résolution de conflits me semble être une piste intéressante au niveau donc de la CEMAC, au niveau de la CEAC, au niveau de la CDAO et d'un certain nombre d'autres groupements, me semble quelque chose de plus efficace, puisque c'est directement ces pays-là, du fait d'avoir des frontières communes, peuvent agir et agir vite par rapport à l'Union africaine, qui reste quand même qui reste quand même une force qui soit un peu pas tout à fait intervenant dans un certain nombre d'États. D'accord. Donc, alors, les mécanismes sous-régionaux qu'il faut renforcer, d'accord, les mécanismes de résolution de conflits.
D'accord. Alors, quel est ton avis? Ces régimes militaires semblent jouir d'une certaine popularité, quoi qu'on dise, hein, une certaine popularité auprès de l'opinion. N'est-ce pas un message que l'Union africaine doit décrypter au lieu de condamner ou de sanctionner?
Effectivement, et c'est ça que je suis en train de dire. La réalité des problèmes se trouve au niveau national. Si ces régimes militaires sont populaires, c'est parce qu'ils reflètent l'état d'esprit des populations. Les populations en ont marre avec les dirigeants africains qui vraiment ne font rien depuis l'accession de nos pays à l'indépendance pour transformer les vies de leurs citoyens. Et c'est donc dans ce contexte que nous voyons le retour de ces phénomènes que nous avons vécu.
Pardon? Est-ce qu'il est évident que la situation s'est améliorée avec ces régimes militaires?
Ce n'est pas encore évident, mais on doit leur accorder du temps. Et étant donné qu'ils ont l'appui des populations, on doit leur donner temps. Et moi, je pense que c'est là où se trouve la solution. Tant que les peuples sont avec eux, on doit leur permettre de mettre en pratique leur vision, leur plan, et ce que ça va donner. Mais ce n'est pas au niveau des institutions régionales ou continentales qu'on va résoudre les problèmes des pays africains. Je rejette totalement cette proposition, et on sait qu'on est passé par là depuis des temps immémoriaux, et les institutions régionales n'ont jamais donné des solutions aux pays africains. Alors, jamais.
Point de vue intéressant, j'aurais aimé avoir la réponse d'Ibrahim Khan. Mais on va aller rapidement aux commentaires Facebook avant la pause. Nous avons donc notre premier téléspectateur, Yao Marcelin Kofi à Abidjan, qui dit: la vision despotique du pouvoir politique qu'ont certains chefs d'État africains engendre malheureusement les changements de constitution. L'Union africaine n'a jamais jamais sanctionné un de ses membres auteur de, entre guillemets, coup d'État constitutionnel. Par contre, l'organisation continentale bande ses muscles quand il s'agit des coups d'État militaires. L'Union africaine devrait veiller au respect de la limitation des mandats présidentiels. Boubacar Koulibaly à Shenyang, c'est en Chine. Il dit il va toujours y avoir des coups d'État en Afrique car beaucoup de dirigeants africains n'ont aucune vision objective pour les peuples africains, avec les mots qui minent la gouvernance politique sur le continent, corruption, détournement de fonds, etc. Et puis Meskendal est à Brazzaville, il écrit « En réalité, ce sont les changements de constitution qui ont provoqué des révoltes, puis des coups d'État militaires. Même un hold-up électoral est un coup d'État constitutionnel, peut-être aussi dangereux que celui perpétré par des armes à feu. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Vous, le public, vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Pour la seconde partie de Washington Forum, je rappelle nos invités à Dakar, Ibrahim Khan, analyste politique, directeur du plaidoyer à l'OCIWAR auprès de l'Union africaine. À Rouen, en France, Brice Arsène Mankou, sociologue, co-directeur du Centre africain de recherche interdisciplinaire de l'Afrique au Canada. Et à Orlando, en Floride, Kerry Tanda, professeur de sciences politiques et administratives à l'Université de Kinshasa. Alors, Ibrahim Khan, dans cette quête de stabilité institutionnelle, est-ce qu'il faut que la limitation des mandats soit indispensable? Certains évoquent quand même des démocraties où il n'existe pas de limitation de mandat, comme en Allemagne.
Vous savez, la question de la limitation des mandats est liée à la manière dont nos États gèrent les pays. Mm-hmm. Si vous avez vu depuis les indépendances, il y a des générations d'Africains qui n'ont connu qu'un seul président ou qui n'ont connu dans leur vie qu'une seule personne qui a géré leur vie. Yahya Jammeh vient de quitter le pouvoir, il était au pouvoir pendant 27 ans. On ne peut pas penser que Yahya Jammeh était le seul Gambien qui est capable de gérer la vie des Gambiens et donc permettre au maximum de citoyens de briguer, voire d'État, de participer à la gestion des affaires publiques est un moyen aussi de pérenniser le système démocratique que nous voulons voir pérenniser dans tous nos États, mais aussi un moyen de faire en sorte que la jeunesse croit à la possibilité d'un renouvellement périodique de la classe politique, de renouvellement périodique des gens qui gèrent le pays. Donc, à mon avis, vu la nature des systèmes politiques qu'on a, il est nécessaire de limiter les mandats des présidents. Et d'ailleurs, un président sénégalais, la trempe de Abdou Diouf, a dit ouvertement que d'après sa propre expérience, deux mandats étaient largement suffisants pour un président de faire ce qu'il avait à faire pour son pays et de rendre la main aux autres. Et c'est dans ce contexte-là que les États africains les États de l'Afrique de l'Ouest ont pensé qu'il était nécessaire de réviser leur protocole sur la bonne gouvernance et d'introduire une disposition qui limite les mandats à deux et qui peut nous éviter des crises politiques qu'on connaît de manière régulière dans la région.
Alors Brice Mankou, dans ce débat sur la stabilité et la nécessité d'avoir des institutions fortes, justement, il y a aussi les facteurs socio-économiques, au-delà des tiraillements politiques, l'absence d'opportunités pour les jeunes aussi. Est-ce que ce n'est pas un des plus grands risques pour ces institutions ?
Nos institutions, à l'image justement des populations, sont d'une instabilité telle que nous devons faire respirer ces institutions. Il est clair qu'un certain nombre de coups d'État en Afrique ont fait porter les militaires au pouvoir. Et il paraît quand même curieux que dans un certain nombre d'États, ces militaires sont revenus plusieurs fois au pouvoir. Je prendrai le cas du Mali avec ATT, je prendrai le cas du Ghana avec Jerry Rawlings. Et donc là, on se retrouve dans une situation où, à un moment donné aussi, que voulons-nous ? Que voulons-nous en Afrique quand on sait très bien qu'à un moment donné, nous faisons appel à ces militaires-là pour venir à la rescousse de la démocratie lorsqu'il y a des problèmes dans un certain nombre d'États ? Et donc, si nous savons déjà ce que nous voulons, eh bien nous devons inscrire sur du marbre, une bonne fois pour toutes, cette question de limitation des mandats. De sorte que ce soit connu et que ce ne soit pas les mêmes et que les jeunes, de plus en plus, prennent des fonctions au sein des institutions politiques de nos États.
Que les jeunes s'impliquent davantage. D'accord. Alors, quel est ton là le problème? Est-il plus la limitation des mandats ou plutôt le fait de vouloir changer les règles du jeu à l'approche d'élections pour rester au pouvoir, comme on le voit dans beaucoup de cas?
Bon, moi je pense que les changements de constitution sont réellement à condamner et j'appuie l'idée de pouvoir déterminer la durée des mandats de ceux qui dirigent. Néanmoins, je continue à marteler le point de vue que ce n'est pas au niveau des institutions régionales ou continentales que nous devons recevoir de telles directives, de telles orientations. Ce n'est pas à ce niveau qu'on va résoudre les questions des pays africains. C'est au niveau des États africains d'abord que l'on doit, se pencher et voir comment les États eux-mêmes prennent conscience de la nécessité de se réorganiser, de renforcer leurs institutions afin d'amener aux transformations, au développement de leur pays. Donc ce n'est pas, la question n'est pas au niveau des institutions régionales ou continentales. Je pense que
quel devrait être le rôle de ces institutions alors, puisqu'on parle de plus en plus d'intégration, il faut au moins une certaine norme pour tout le monde, non? Un minimum.
Mais nous sommes avec ces institutions depuis plus de 40 ans. Mm-hmm. Elles sont là. Et vous savez comme moi que jamais les problèmes des pays africains n'ont été résolus par les truchements de ces institutions. Donc, on doit, à mon sens, renforcer les États africains d'abord, avant de s'attendre à une possibilité que les institutions régionales ou continentales puissent jouer leur rôle. Tant qu'il n'y a pas de sanctions au niveau de ces institutions, elles ne servent à rien. Personne ne respecte ces institutions. Les Maliens se moquent carrément de l'ECOWAS. Vous savez ce qui se passe avec les sanctions qui n'amènent les États nulle part. Donc, tant qu'il n'y a pas de renforcement au niveau des États-nations, on ne peut pas s'attendre à une transformation du continent africain. D'accord. Et les renforcements au niveau des États africains se focalisent sur les changements de mentalité, prise de conscience de la citoyenneté et la détermination de pouvoir aller de l'avant.
En tout cas, c'est un débat à suivre, ça c'est sûr. Malheureusement, c'est la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.